Parce que je crois qu'on ne peut pas bâtir une alternative à la mondialisation libérale sans un lien avec les mouvements sociaux, les mouvements citoyens qui se sont battus au cours de ces dernières années pour faire prendre conscience qu'il y avait des enjeux planétaires qui nécessitaient d'autres réponses que celles qui sont apportées par les institutions internationales. D'autres réponses pour l'environnement, d'autres réponses pour un commerce équitable entre le Nord et le Sud, d'autres réponses pour permettre aux pays du Sud de connaître véritablement un développement. Et donc je crois que pour moi c'est comme une respiration, c'est venir établir un lien qui aussi, je crois, est utile aux mouvements sociaux. Parce que si les mouvements sociaux veulent dépasser l'étape de la contestation, qui est indispensable, je crois moi que la critique est toujours féconde, donc il faut continuer. Mais si on veut aller au-delà de ce qui s'est passé dans le contre-sommet de Seattle ou en marge des réunions du FMI à Washington ou à Prague, et qu'on veut commencer à penser qu'un autre monde est possible, évidemment, il y a une question stratégique qui est celle du lien entre ces mouvements sociaux et des politiques. Je crois que l'événement dans l'événement, ici à Porto Alegre, c'était qu'il y avait un forum parlementaire mondial. Il y avait déjà des parlementaires dans d'autres réunions à Seattle. Vraiment, moi, j'étais là. On a rencontré un certain nombre de collègues, des parlementaires américains, d'autres venus d'Amérique latine, de toute l'Europe. Mais bon, on était là pour accompagner le mouvement, pour dire notre soutien, notre sympathie. Il n'y avait pas un cadre de rencontre formelle des parlementaires. Et ici, pour la première fois, il y a eu cette rencontre de parlementaires qui va déboucher sur la création d'un réseau parlementaire qui va rester en lien pour coordonner les actions que nous menons dans nos différentes assemblées sur un certain nombre de sujets qui correspondent aux grandes campagnes menées par le mouvement social. On a décidé qu'on allait agir ensemble pour l'abolition de la dette, pour l'instauration d'une taxe sur les transactions financières de type Tobin, pour la suppression des paradis fiscaux, contre la brevetabilité du vivant, pour la réforme de l'OMC et des institutions financières internationales, pour le respect des grandes conventions écologiques. Et ça, ça a été élaboré avec des parlementaires de toute l'Amérique latine, de toute l'Europe, et y compris un certain nombre de parlementaires venus d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique, de Corée. Il faudra sans doute que la prochaine fois, il y ait encore plus de représentations de l'Afrique et de l'Asie, et de l'Amérique du Nord aussi. Mais ça s'est fait en lien avec ce mouvement social. C'est très important parce que ce mouvement de contestation de la libéralisation, il est aussi un mouvement de méfiance à l'égard des forces politiques, parce qu'il a la déception de voir des gouvernements qui, au lieu de s'attacher au développement humain, sont surtout maintenant soucieux d'attirer dans leur pays les investisseurs, les capitaux, de se montrer les meilleurs élèves du FMI, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'ils sont pris à la gorge par la dette, et aussi peut-être parfois parce qu'ils se sont pris à ce jeu, et qu'il y a une coupure qui s'établit très souvent entre les élus et la population. Et là, ce lien entre les politiques et le mouvement social, il a été ouvertement voulu, affiché, organisé. On a débouché sur une résolution qui a été amendée. Il y a eu, je crois, une vingtaine d'amendements qui ont été proposés par les uns et par les autres sur la base d'un premier texte qui avait été préparé par un petit groupe de parlementaires en Europe, notamment au Parlement européen, et des parlementaires brésiliens. Et puis ici, on a refait un autre groupe de travail avec, en élargissant davantage, avec des gens de toute l'Amérique latine. Et on a réussi en plénière à l'enrichir, ce texte, à l'adopter. C'est pas évident. Il y a des gens là de sensibilités politiques très différentes. Comme vous l'avez dit, moi, je suis un militant socialiste. Il y avait d'autres socialistes. Il y avait des Suisses. Pas assez, à mon goût. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. Mais il y avait quelques représentants de partis socialistes d'Amérique latine. Mais il y avait, pour le reste, les partis du travail brésilien. Il y avait des gens des partis communistes, des mouvements d'extrême gauche, quelques démocrates chrétiens. Et on a quand même réussi, je crois aussi parce qu'il y a ce lien avec le mouvement social à se retrouver et à surpasser les différences dans le respect de nos diversités. Il y a des sujets sur lesquels sans doute on ne serait pas d'accord. On a quand même réussi à surpasser ça et à établir une plateforme pour travailler en commun. Et pas simplement dire on se revoit dans un an ou dans deux ans pour coordonner nos campagnes, pour les renforcer. S'il y a une partie maintenant des dirigeants politiques qui pensent que de toute façon l'économie se dirige toute seule, qu'on n'y peut rien, que les forces en mouvement sont trop fortes. Maintenant, vous savez, pour un membre d'un gouvernement d'un pays d'Afrique, quand il a en face de lui une multinationale dont le chiffre d'affaires est égal à 15 fois le produit intérieur brut de son pays, il se dit « bon, bah voilà, il faut juste que j'essaye de la faire venir, je vais lui supprimer les taxes, je vais faire en sorte que les travailleurs l'embêtent pas trop, parce qu'au moins ils seront là, ça créera un peu d'emploi, ça apportera un minimum de richesse ». Mais il y a aussi une révolte d'un certain nombre d'autres hommes politiques qui disent que c'est inacceptable, que ce système qui domine le monde, c'est pas un système où l'allocation des ressources se fait pour le bien de toute la population. C'est pas vrai. Le commerce mondial a jamais été aussi fort, mais l'Afrique a jamais été aussi marginalisée. Elle est passée de moins de 3% à moins de 2% du commerce international. Il y a jamais eu autant de richesses créées, mais il y a jamais eu autant de millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès aux soins les plus élémentaires. Il y a des millions d'enfants qui meurent tous les ans de maladies qu'on sait soigner. Et il y a heureusement, on l'a vu, des centaines d'élus dans les parlements qui disent qu'il faut que les élus légitimes de la population reprennent le contrôle. C'est ça d'ailleurs le sens de revendications comme la taxe Tobin ou la suppression des paradis fiscaux. C'est pas juste qu'on veut aller reprendre de l'argent aux spéculateurs parce que c'est immoral que ces gens-là se fassent autant d'argent. Bien sûr c'est immoral, mais c'est parce que c'est anormal que ce soit ces gens-là qui décident où va l'argent, à quel endroit, parce que c'est là que l'accumulation du capital, la rentabilité se fera le mieux, et que c'est pas possible d'accepter que ce soit la logique financière qui dirige tout. C'est pas possible d'accepter que tout soit marchandisé, que le vivant soit breveté, le génome humain, les plantes, que demain des trusts pharmaceutiques se fassent de l'argent sur des richesses naturelles qui appartiennent aux pays les plus pauvres. Donc, il y a, je crois, une révolte qui, en même temps, essaye de se transformer en quelque chose de constructif, de positif, bâtir une alternative. Par exemple, là, dans notre texte, on ne dit pas simplement qu'il faut combattre l'OMC, on dit qu'il faut réformer l'OMC, qu'il faut bâtir d'autres institutions financières. C'est pas simplement contester le FMI et la Banque mondiale, mais c'est dire qu'est-ce qu'on doit mettre à la place comme institution. Et c'est ça, le programme sur lequel on va travailler. Parce que je crois qu'il faut que nous nous appuyions sur le mouvement social pour contester la logique néolibérale, qui est une logique destructrice, qui est une sorte de rouleau compresseur qui écrase les peuples, leur représentation politique, leur souveraineté. Mais il faut aussi qu'on aide ce mouvement social à pouvoir avoir des perspectives, à bâtir des alternatives. Et d'une certaine façon, ici, à Porto Alegre, dans Rio Grande do Sul, on voit ça. La vraie force de ceux qui nous accueillent, du Parti des Travailleurs ici, c'est qu'il est issu d'un mouvement social, syndical d'abord, autour de Lula, etc., mouvement des sans-terres aussi, et en même temps, il a donné à ce mouvement social un débouché avec un programme politique pour gérer des villes, un État, mais en intégrant des pratiques complètement nouvelles, le budget participatif, etc. Bon, mais c'est ça qu'il faut inventer au niveau mondial. Et donc ce lien qu'ici on a commencé à établir entre des parlementaires de tous les continents et entre les parlementaires et le mouvement social, je crois que c'est le point de passage le plus important pour construire une alternative. Et la situation au niveau mondial aujourd'hui est bien plus inquiétante parce que l'Europe économique s'est faite après l'échec de la communauté européenne de défense parce que un certain nombre de dirigeants qui étaient convaincus qu'il fallait à tout prix éviter que les grands pays européens, en particulier la France et l'Allemagne, rentrent à nouveau dans une logique de compétition qui redeviendrait une logique de confrontation et qui pouvait à nouveau déboucher sur un désastre et sur la guerre, se sont dit, puisqu'on n'a pas réussi à tout de suite bâtir une Europe politique, une Europe commune de la défense, il faut qu'on fasse l'Europe économique parce que ça va imbriquer les sociétés, ça va créer l'obligation de coopérer et de cette coopération économique naîtra la nécessité d'aller encore plus loin, de créer demain une monnaie commune et de créer des institutions politiques et de créer un jour une fédération politique. Donc il y avait cette excuse, entre guillemets, y compris de la part des sociodémocrates qui participaient de cette démarche avec les démocrates chrétiens, de dire, certes, aujourd'hui, c'est surtout le programme des démocrates chrétiens et des libéraux qui avance, c'est-à-dire l'Europe économique, le marché commun. Mais ça a un sens politique parce qu'il s'agit bien d'enclencher un mécanisme qui va déboucher sur l'Europe politique. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est que le programme de ceux qui mettent en œuvre la mondialisation économique, l'ouverture totale des marchés, etc., c'est pas du tout pour pouvoir bâtir demain un Parlement mondial, comme il y a un Parlement européen, une démocratie mondiale pour que de façon rationnelle, maîtrisée, on puisse voir quels sont les équilibres du monde de demain. C'est justement de bâtir des institutions qui permettent aux forces économiques, à ce capital financier transnational, de contourner toutes les règles issues des institutions publiques, et d'abord des États. Et par exemple, la tentative de créer un accord multilatéral sur l'investissement, c'était simple, avec des clauses qui disaient si vous avez investi dans un pays et que ce pays change ses règles en matière environnementale ou en matière sociale et que ça entraîne des coûts nouveaux pour vous, vous pouvez exiger une indemnisation du pays. C'est-à-dire, l'OMC, c'est ça, l'OMC décide que la seule chose qui compte, c'est le libre-échange, le libre-commerce. Si vous avez décidé, comme c'est le cas pour l'Union européenne, que vous ne vouliez pas manger de bœuf aux Normandes, on dit « Ah bah non !» Parce que c'est pas conforme aux règles de la concurrence. On doit pouvoir vendre son bœuf aux hormones n'importe où. Donc c'est des institutions, non pas pour aider à bâtir une régulation démocratique mondiale, mais pour confisquer toutes les possibilités de régulation démocratique et faire en sorte que n'existent que des instances d'arbitrage privées qui en fait ont des comptes à rendre qu'aux marchés financiers, aux multinationales, pour assurer les meilleures conditions de partage du gâteau mondial. Mais c'est en plus un partage du gâteau qui laisse sur la touche plus de la moitié de l'humanité. Ceux-là ne sont pas intéressants, ils n'ont pas de quoi consommer. Ce qui est intéressant, c'est les 1,5 milliard qui peuvent consommer. Et les autres, ce n'est pas grave. Qu'ils n'aient pas l'eau, qu'ils n'aient pas l'électricité, qu'ils ne puissent pas acheter les médicaments, qu'ils ne puissent pas envoyer leurs enfants à l'école, ce n'est pas grave. Bon. Donc c'est ça qui est inacceptable. Et c'est pour ça que face à cela, une réunion comme celle-là est très importante, et notamment la réunion politique dans le cadre du Forum social mondial, parce que si il n'y a pas une perspective d'une autre mondialisation sur le plan politique, la seule perspective qui va rester à beaucoup de peuples, c'est le repli sur une sorte d'intégrisme identitaire ou de nationalisme. Et moi, je crois d'ailleurs qu'il y a un lien entre l'émergence du Front National en France, de mouvements comme Haider en Autriche, et la montée des ethnicismes et des intégrismes dans un certain nombre de pays du tiers-monde. Parce que, en fait, pour une part, ces mouvements, c'est des mouvements de réaction face à la violence de la mondialisation libérale, qui s'expriment de façon évidemment irrationnelle, extrême, dramatique. Mais on est contre Coca-Cola, on est contre l'impérialisme américain, on est contre l'Occident, on est contre la prétention de l'Occident à vouloir imposer ses valeurs démocratiques qui sont des mensonges puisqu'ils nous laissent mourir. Et tout ça fait qu'on valorise l'ethnie, la nation, la religion comme étant le cadre d'une dignité retrouvée qui permet la solidarité dans la communauté contre ce monde qui nous méprise. Bon. Et donc si on n'arrive pas à faire émerger une alternative mondiale, internationaliste, alors il restera que le choc entre la mondialisation capitaliste qui nie les droits humains et de l'autre côté des réactions complètement régressives mais qui se développeront au nom de la solidarité de proximité et qui sont en fait aussi une forme de la barbarie. En fait, c'est les deux faces de la même réalité. Moi, je crois que nous avons besoin d'un Parlement mondial. C'est une des choses que j'ai proposées dans mon rapport sur la taxe Tobin lors de la première table ronde. Et je crois que d'ailleurs, un des intérêts de la taxe Tobin, au-delà du fait qu'il s'agit d'essayer de réduire la spéculation et la déstabilisation qu'elle entraîne sur les monnaies, mais c'est qu'elle oblige à penser une coopération internationale et non pas la compétition entre les États, et qu'elle amène à penser l'idée d'une redistribution des richesses à l'échelle mondiale, un impôt mondial, et l'idée de la gestion de cette richesse qu'on va prélever pour la redistribuer dans le Sud. Alors, pour la gérer, faut bien la gérer ensemble. Parce que c'est pas parce que la bourse de Londres, la City de Londres, représente 30% du marché des devises que c'est l'Angleterre qui va récupérer 30% de la taxe Tobin. Bon, donc, c'est au niveau des Nations Unies. Mais il faut que ces Nations Unies aient un organe qui soit davantage la représentation des peuples dans leur diversité. Donc il faut créer une assemblée parlementaire mondiale des Nations Unies. Cette assemblée parlementaire mondiale, justement, ne sera pas uniquement consultative si elle a pour objectif de gérer le produit de cette taxe Tobin. À quel grand programme prioritaire on va l'affecter? L'accès à l'eau pour tous, le droit à aux vaccinations et aux soins, le droit à l'éducation, construire des équipements énergétiques écologiquement viables dans tous les pays du tiers-monde où on n'a pas l'énergie. Si on n'a pas l'énergie, on n'a pas d'électricité, on ne peut pas avoir de centre de soins, on ne peut pas avoir d'école, etc. On ne peut pas avoir de transport. Bon, si on n'a pas de transport, on ne peut pas avoir d'économie qui se développe, etc. Et donc, je crois qu'effectivement, il faut que nous réussissions décision à faire naître de ces rencontres, du travail qui va s'établir dans ce réseau parlementaire mondial, la revendication d'une conquête de la démocratie mondiale, qui passe par des institutions mondiales qui soient sous contrôle des parlementaires, et non pas sous contrôle de la bureaucratie de l'OMC, et en fait des forces économiques et de leurs intérêts à elles, leurs intérêts étroits.